Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine.
Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut, bonjour, bienvenue dans Focus Store, deuxième édition, version plus mieux que la précédente. Une émission dans laquelle les journalistes du magazine Focus Gif piochent sur les étagères de la culture et se penchent sur les objets incontournables du moment. Ceux dont tout le monde parle, des disques, des livres, des BD, des séries, des films et même d'autres choses. L'originalité de la chose, c'est qu'à côté des critiques des journalistes spécialisés, on vous propose aussi celle des autres. On oblige les gens de cinéma à regarder la télé, les mélomanes à lire des BD, etc., etc. Et le but de tout ça, ce n'est évidemment pas de se palucher entre gens du métier, mais bien de proposer un panel d'opinions différentes dans lesquelles on vous invite à piocher, à faire votre marché et à construire la vôtre. Autour de la table, aujourd'hui, il y a Laurent Raphaël, notre cher leader, le rédacteur en chef de Focus.
Bonjour Myriam.
Isaline Parisis, journaliste bouquin et sosie gracieux de Cathy Meuler.
Bonjour Myriam.
Laurent Houbrex, chef des pages musique et plus grand fan adulte de Beyoncé.
C'est moi. Bonjour.
Et Julien Broquet, journaliste musique et président du futur fan club du meurtrier d'Adèle, qu'il appelle de ses voeux. Bonjour Julien.
Bonjour Myriam.
Bonjour à tous. Alors, de quoi qu'on va causer aujourd'hui? Eh bien de Skyfall, le dernier James Bond, de Vengeance, le nouvel album de Benjamin Biolay, de la série Boss et de Peste et choléra, un roman de Patrick Deville. Vengeance, c'est l'album de Benjamin Biolay qui est sorti le 5 novembre dernier. C'est un disque qui rompt un petit peu avec la dépression de ses opus précédents. Bon, je dirais pas que Benjamin Biolay est devenu festif, mais il est au moins devenu un peu plus lumineux. Je vous propose d'écouter Aime mon amour, c'est le premier single et on se retrouve juste derrière.
Thank you.
de Benjamin Biolay. C'est un album plein de featuring avec Vanessa Paradis, Orelsan, Oxmo, Puccino, Julia Stone, Karl Barat et plein d'autres encore. Et c'est un disque qui m'a, je vous le dis assez platement, vachement déçu. Il faut dire que La Superbe était quand même une merveille, elle avait placé la barre très haut. Ici, je reconnais toujours un vrai talent de mélodiste avec des morceaux assez réussis, en particulier quand il explore le versant électro de la force. Mais alors, du côté des paroles, j'ai trouvé ça très très peu inspiré, voire même carrément très plat. Et au rayon de la voix, il en fait 10 fois trop de vibrato essentiellement. Alors il tient la note pendant 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. J'ai lu quelque part qu'il s'assumait enfin comme chanteur et c'est peut-être ça en fait le problème. Il a joué au chanteur, il a fait semblant, alors que ben, moi je l'aimais bien comme il était avant, presque gêné d'être là. Benjamin Biolay qui a fait la couverture de Focus cette semaine, c'est Julien Broquet qui l'a rencontré. Alors il est comment Julien, Benjamin ?
Il est gentil Benjamin, il a les yeux fatigués par les pétards, mais il est plutôt sympa et accueillant. Non mais son disque, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais je trouve sévère. Pour moi il y a un tiers qui est génial, un tiers qui est de bonne qualité et un tiers qui est franchement chiant quoi. Mmh. Et donc ça ressemble un peu à un All-Star Game hein, comme tu l'as dit, avec tous ces invités. Alors pour moi il y a des vraies réussites, je trouve le morceau avec Vanessa Paradis et celui avec Julia Stone surtout, que je trouve vraiment super. Mais les Orelsan, les Oxmo Puccino, je comprends pas vraiment en fait.
Oui, mais modo, c'est pas ta cam de toute façon.
C'est pas ma cam de toute façon. C'est pas vrai. Mauvaise langue. Non, je trouve que. Enfin, je comprends pas spécialement l'association. Et puis même les morceaux, je les trouve franchement pas vraiment réussis. Par contre, comme je disais, les duos avec les femmes qui me font un petit peu penser à ce qu'il a pu faire avec Chiara Mastroianni. Mm-hmm. Ça, je trouve que c'est parfait quoi. Par contre, comme tu disais, il s'assume comme chanteur, mais il perd son identité, je trouve. Ouais. Et il me fait penser à Miossec sur le morceau Confetti. Donc, comme je disais, ça, c'est le duo avec Julia Stone, qui était censé même ne pas figurer sur l'album, mais qui a finalement atterri, heureusement. Il me fait penser à Murat sur un ou deux morceaux également. C'est assez étrange de se dire que, alors qu'il s'assume comme chanteur, il perd de son cachet, je dirais.
Mais avant, il faisait penser à Gainsbourg, quoi. Finalement, il passe de l'un à l'autre.
Bon, c'est quand même une référence un petit peu plus sympathique, non ?
Gainsbourg ?
Ouais.
Oui, mais le fait est que, voilà, on n'arrive pas à lui détacher une voix un peu personnelle.
Bah, c'est surtout un
presque jeu.
Sur ses albums précédents, on trouvait qu'il ressemblait à Gainsbourg, mais si tu l'écoutais, tu le reconnaissais. Sur celui-ci, pour moi, il y a vraiment deux morceaux. Pendant 20 secondes, je défierais les gens de les faire écouter, ils me diraient que c'est Murat.
Isaline, qui opine du chef.
Oui, j'opine pour Murat. moi, en fait, Benjamin Biolay, je ne suis pas super cliente. J'ai souvent tourné autour, j'ai rarement plongé. J'ai toujours eu un peu cette image d'un filet de voix, je sais pas, un peu rebutant, pas très généreux, articulé, un peu méprisant, comme ça, un déclamé qui me touchait pas beaucoup. Du coup, moi, j'aime assez bien ici parce que, effectivement, il y a des moments Miossec, il y a des moments Murat dans lesquels moi je rentre plus. C'est quand même un disque plein de couches, plein de styles, d'expérimentation. Alors, on sent vraiment, oui, le parolier qui teste et varie les façons de poser les paroles et les mots, comment les coller dans une chanson. Il y a du rap, il y a du hip-hop, il y a des ballades. Du coup, clairement, il y a des étapes sur lesquelles moi, je ne le suis pas du tout. Il y a par exemple, je trouve un vrai problème avec les synthés, comme ça, et les réverbérations et les échos qui donnent.
Ah bah moi, justement, j'aime plutôt bien.
Moi, je trouve parfois, on frôle quand même dangereusement Indochine, quoi. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Marlène déconne, c'est quand même un peu limite, quoi. moi, j'ai un petit peu cette mauvaise habitude, sans doute, d'écouter d'abord la musique et puis les paroles. Et si la musique me rebute, tant pis pour les paroles, moi, je peux pas. Donc, si vous voulez, c'est le disque où je passerai systématiquement certains morceaux. Sous le lac gelé, l'insigne honneur, là je peux vraiment pas.
Ah bah moi c'est mes deux préférés.
Ah c'est vrai. Et puis il y en a d'autres que j'adorerais. Effectivement, je pense que moins il en fait mieux c'est. Et je pense que le meilleur accompagnement qu'il peut se donner, Benjamin Biolay, c'est quand celui qui va mieux, c'est peut-être quand il chante avec d'autres. En fait c'est la voix des autres. Et donc oui, Confetti, Profite, moi j'aime beaucoup. Aime mon amour, je trouve ça sublime. Personne dans mon lit aussi.
Voilà. Laurent Aubrex. Ah non, peut-être que le chef voulait parler. Je t'ai vu la bouche déjà ouverte.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que je trouve cet album, c'est un album un peu yin et yang. Donc il y a à la fois un côté agaçant, c'est le côté un peu fumeux, le côté crooner, la posture qu'il peut avoir avec cet excès de sensualité, de mélancolie, un peu ce brassage, le trop plein, trop de chansons, la volonté d'un peu courir 36 lièvres à la fois. Ça, c'est le côté un peu agaçant. Et puis à côté de ça, il reste malgré tout chez lui cette capacité à rebondir et à s'approprier malgré tout tous les genres. ici aussi bien de la variété que des ballades, que du côté du rap, de la pop, parfois même de la new wave comme dans L'Insigne Honneur. Il va même jusqu'à ressembler à MC Solar dans Belle Époque. Mm-hmm. Si vous écoutez, c'est assez frappant. Voilà, donc il y a à boire et à manger. Suivant son humeur, on peut être complètement hérissé par le personnage, mais malgré tout, lui reconnaître cette capacité gainsbourienne à s'approprier les genres.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on est à 5 autour de cette table et qu'on écoutera chacun juste la moitié de cet album, mais qu'on n'écoutera pas la même, en fait.
C'est vrai.
Oui, wow. Je suis pas sûr qu'il restera, restera non plus dans les annales, quoi. Là, ça,
je pense pas non plus. Je pense qu'on est quand même assez loin de la super. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent Brex?
Mais moi, j'ai jamais été fort client de Biolay. J'ai toujours, en fait, voilà, le Biolay, je l'ai jusqu'à très récemment trouvé dans. Je trouvais qu'il était fort dans la posture, le côté un peu branleur magnifique, comme ça, un peu. Mais en fait, c'est pas une posture,
non,
c'est
pas.
Vraiment ça, ouais, oui. C'est vraiment un branleur, et ça, c'est vraiment un disque de branleur où d'ailleurs, il le dit lui-même dans l'interview qu'il a donnée à Julien, il a un peu essayé tout ce qui lui passait par la tête, il a laissé passer des accidents, enfin, je crois qu'il a... Je dis pas qu'il a fait ce disque par-dessus la jambe, mais on en est quand même pas loin.
Juste un branleur, il n'invite pas le casting tip-top du moment avec Aurel San, Oxmo Puccino, Vanessa Paradis. C'est un branleur qui quand même réfléchit et a une idée très précise de sa personne.
On va quand même lui donner des excuses, quoi. Vanessa Paradis, il a travaillé avec elle sur son dernier album.
Et puis il se la tape, apparemment.
C'est de la rancœur. Ouais, je lui ai pas demandé, quoi. Je m'en fous, en fait. Il baisse ce qu'il veut. Bah, apparemment, il a baisé pas mal de beau monde à Paris. Mais...
Non, mais c'est aussi le côté, dans l'interview il le dit aussi, moi ma culture c'est le hip-hop, alors ouais, je vais aller chercher Aurel San et Puccino, qui servent à rien dans les titres. Hein. Je trouve que vraiment les deux titres sur lesquels ils apparaissent...
Mais ça fonctionne pas.
Justement, moi, à contrario, je trouve que le seul moment intéressant de la chanson avec Aurel San, c'est quand Aurel San arrive. Il n'a jamais été aussi bon que dans cette chanson-là. Et pareil pour Oxmo Puccino.
Ouais, mais les deux ensemble ne fonctionnent pas forcément.
Non. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des duos. Ils arrivent tous à la fin, ils viennent un peu cachetonner. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire.
Le machin avec Karl Barat, moi, je n'y crois pas une seule seconde.
Il y a un côté complètement à distance pour la plupart d'entre eux.
Je ne suis pas sûr avec Karl Barat, je crois qu'ils...
Non, mais je pense surtout que... Je pense qu'on lui fait un procès d'intention. Pour moi, c'est pas du calcul. C'est des hasards de rencontre. Et voilà, il s'est éclaté. Karl Barat qui a demandé s'il pouvait venir lui dire bonjour alors qu'il était en studio. Et puis, il a fait d'autres trucs avec Barat. Il a bossé sur un opéra à Paris. Il a bossé sur 4 ou 5 morceaux, je pense, du futur album de Barat. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit opportuniste, en fait.
Moi, je pense pas que ce soit un opportuniste. Je pense que c'est un vrai dilettante, un vrai... Ouais, branleur. Et du coup, ça fait un disque de branleur, mais c'est pas forcément négatif. Moi, je le réécouterai pas, mais je trouve que c'est un album plutôt attachant, quoi, par ce côté justement un peu. Je fais un peu ce qui me passe par la tête, ça fonctionne pas, on s'en fout. Et pour ça, il est assez attachant comme gars, comme il est super attachant à lire en interview, et c'est plutôt un mec intéressant.
J'aimerais bien être un branleur et un dilettante aussi productif que ce type, quoi, mm-hmm. qui n'arrête pas, qui bosse sur 28 000 projets, qui a quand même une belle cadence au niveau de ses albums. Donc,
le cinéma, évidemment.
Oui. Donc, Julien, est-ce qu'il faut lire l'interview que tu as faite de Benjamin Biolay? C'est intéressant comme papier.
Obligé, même.
Oh, oui, d'accord. Ça va. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce disque?
Une cote, 6 sur 10 pour moi.
Laurent?
6.
Ouais, moi aussi 6.
6,5 pour me distinguer, pour chipoter un peu.
Moi j'allais mettre 6 aussi, parce que bon, du mauvais Biolay, ça reste quand même du Biolay. Puis moi je reste quand même très très amoureuse de lui. Donc Benjamin, si tu nous écoutes, j'habite près du studio ICP. Voilà. Le film Skyfall, dont on entend ici même la BO chantée par Adèle, un générique en forme de petit film d'animation et qui, rien qu'à lui, vaut certainement déjà le prix du billet. C'est Sam Mendes qui a réalisé le film des 50 ans de James Bond, un volet à l'occasion duquel on se pose la question de la date de péremption de l'agent secret britannique qui commence à se faire un petit peu vieux et qui ne trouve peut-être plus tout à fait sa légitimité sur le terrain. This is the end. Hold your breath and count to ten. On peut y voir, en tout cas ce que j'y ai vu, un parallèle avec le dernier Batman dans lequel Bruce Wayne n'est plus au sommet de sa forme non plus. Beaucoup de questions en fait dans Skyfall notamment, et c'est sans doute la plus intéressante. D'où vient le mal en 2012? Comment l'identifier dans un ordre mondial plus complexe que jamais? C'est à mes yeux un film presque parfait, d'une beauté formelle renversante, à la fois très jouissive dans l'action et assez consistante dans la psychologie des personnages. Mention spéciale évidemment à Javier Bardem qui joue un méchant formidable, presque un personnage de cartoon. On n'est pas loin du Joker de Heath Ledger dans Batman, puisque décidément tout est dans tout. Alors honneur au petit nouveau, Julien Broquet, qu'en as-tu pensé?
Ouais, j'ai trouvé que c'était un bon film d'action, que c'était un bon James Bond, mais que ça réinventait pas non plus grand chose. J'attendais quelque chose de plus, je pense, de Sam Mendes. Il y a quand même des déceptions pour moi dans ce film. Enfin, tu nous parlais du méchant. Bah, justement, moi, Bardem, je le trouve pas inquiétant du tout. Franchement, à part quand il retire ses dents, flipper du tout durant
tout ce film. C'est un méchant de dessin animé.
Enfin, je trouve pas que ce soit un bon méchant de James Bond, ni un bon méchant tout court. Enfin, je sais pas, j'y crois pas spécialement. Et puis, comme je te dis, il me fait pas flipper. Je trouve pas ça... Ça me dérange, quoi. D'Enfer me fait presque plus flipper dans les Austin Powers que lui, dans James Bond, quoi. Non, sinon, j'ai toujours été fort attaché au pré-générique des James Bond. C'est presque toujours ce que j'ai préféré étant gamin. C'est avant que le film commence, quoi. Et celui-ci est pas mal, mais le pré-générique se termine de manière assez bluffante. Et donc, ça m'a plu.
Par la mort de James Bond.
Et tu dis tout déjà.
Ah ben on le sait, hein, c'était dans la bande-annonce.
Je regarde pas les bandes-annonces.
Ah, c'est donc ça. Isaline,
oserais-je vous dire que je me suis un petit peu assoupie
Mais non.
Tu fais écouter. C'est pas ma faute, après ce début complètement hystérique, cette fin effectivement avec la mort de James Bond complètement affolante, et puis ces génériques quand même assez hypnotiques que j'ai trouvé vraiment très beaux. Il y a quand même un peu un creux et j'ai plongé dedans.
Que la première heure est très belle, ouais, visuellement, mais assez longue.
Oui, et puis après un quart d'heure, moi j'avais l'impression que le film était fait, quoi. Il y avait eu la course-poursuite, il y a eu la mort de James Bond et un générique assez tire-larme. Enfin voilà, finalement, plus sérieusement, je pense que le vrai problème avec ce genre de film, c'est comment est-ce qu'on critique un film comme ça. Ça repose tellement sur une franchise qu'on ne sait plus trop comment, on ne sait plus trop où on en est. Est-ce que le film est un bon film par rapport à tous les autres dans l'histoire du cinéma? Est-ce que c'est un bon James Bond? Est-ce que Sam Mendes réinvente la franchise, mais que vaut la franchise seule par rapport au cinéma?
Mais comme c'est le film des 50 ans, ça a aussi son importance.
Oui, bien sûr, mais bah alors, on parle beaucoup de Javier Bardem, effectivement, en excellent méchant de James Bond, mais est-ce que c'est un très bon personnage méchant en tant que tel? Moi, j'en suis pas sûre. C'est pas pour moi un film, c'est plutôt un cru, c'est un épisode. Et il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'à la fin du film, enfin 10 minutes en fait avant la fin, il restait encore 10 bonnes minutes de film, il y a comme ça 2-3 personnes qui sont parties après la résolution, comme si voilà, James Bond avait fait sa prestation, hein, il avait tué qu'il fallait tuer, et en fait, voilà, les gens s'en vont, il y a encore un quart d'heure de film, mais peu importe au final. Et je pense que comme ça, tout est très acquis en fait dans ce film, tout est un peu faussé. Vous savez, c'est comme ces gens un peu froids, un peu désagréables, desquels on applaudit le moindre réchauffement ou le moindre geste. C'est-à-dire
oui.
Que voilà, James Bond fait peut-être 2 traits d'humour en 2h30 de film et tout le monde s'extasie sur son humour et son cynisme absolument
c'est
incroyable.
C'est pas tellement lui qui est drôle dans ce film.
Pas vraiment, non. Je trouve. Et puis alors on vante son sex-appeal absolument irrésistible. Moi je trouve qu'il a plus une tête de Russe mal dégrossi, Daniel Craig.
C'est vrai, de tueur à gage albanais.
Et puis voilà, ce côté un peu visa pour le monde en Turquie à Macao m'a un peu fatiguée aussi. Voilà, il y a un petit côté un peu psychanalytique aussi appliqué un peu facilement sur le film, je trouve un peu plaqué, qui écrase le film plutôt qu'il ne l'ouvre dans des nouvelles chambres d'écho. C'est cette idée de deux
dans
frères.
Dans des nouvelles chambres d'écho. Retenons bien cette
c'est
phrase.
Cette histoire de deux frères, un bon, un méchant, qui cherchent à s'entretuer pour l'amour d'une mère. C'est, je vais pas trop en dévoiler par rapport à ça, mais un tunnel dans lequel on s'enferme enfant pendant 2 jours et duquel on ressort en homme tout à coup. Assoiffé de vengeance. C'est ce discours sur la société, vous en parliez. Javier Bardem a beau être un excellent acteur, je trouve que son personnage de méchant à cœur, qui veut signifier un peu que le mal pourrait venir de partout au XXIe siècle, est un peu creux. Voilà. Ce que je pense un peu d'une maison, avec en plus ces gimmicks, je sais pas vous, mais qui me rendent folle, à savoir que ils cherchent l'ennemi pendant 2h30 et puis à chaque fois qu'ils l'ont à bout portant, ils se mettent à papoter, alors qu'à d'autres moments, ils déchargent gratuitement la gâchette. Enfin, à ce côté quand même super énervant, super attendu.
Ouais, si on cherche le réalisme dans James Bond, forcément on est déçu. C'est sûr que...
Bah oui, c'est ça, moi je regarde ça vraiment comme un cartoon, hein, James Bond.
C'est un divertissement très codé. Enfin, je trouve personnellement ici, Sam Mendes a quand même réussi à renouveler un petit peu les codes du genre qui étaient en train de s'user de plus en plus. Les producteurs pour les 50 ans du Bond ont eu l'audace de faire appel à un réalisateur qui a un peu plus de personnalité dans la personne de Sam Mendes. Et je trouve qu'ici, on a un Bond qui est tracassé, auquel se posent des questions beaucoup plus... sensible que ce qu'on voit d'habitude dans les Bond. Les références sont là, elles sont même saupoudrées d'humour, c'est assez sympa aussi. Des références historiques avec la vieille Austin Martin qu'on sort du garage. Mais il y a aussi toutes des questions beaucoup plus modernes, beaucoup plus inquiétantes, qui raccrochent un petit peu le film à notre époque, notamment sur la vieillesse, le passage de témoin. Avec Judi Dench et avec Bond lui-même qu'on voit vraiment sous un jour qui n'est pas des plus favorables. Et donc voilà, il y a quand même des questions un peu existentielles qui sont traitées avec les codes et avec évidemment la grille de lecture bondienne, mais avec cette dimension un peu supplémentaire qui font qu'au-delà du bon film d'action, il y a malgré tout aussi de quoi sustenter à un niveau un peu plus de réflexion. Voilà. Je trouve que ça, c'est assez gratifiant. Et puis, par rapport à Bardem, ouais, moi, je trouve que c'est un bon mauvais. Une espèce de tata détraqué comme ça qui a été envoyé par Almodovar.
Peroxydé,
comme si Almodovar était venu faire un caméo dans le film. Et là aussi, je trouve dans l'ambiguïté du personnage, qui est un personnage à la fois même séduisant par certains côtés, affectueux, mais dont l'affection a pris le dessus et l'a rendu complètement dingue. C'est aussi l'ennemi de l'intérieur. Voilà, tout ça, je trouve que c'est des questions assez contemporaines qui, en filigrane, font de ce film quelque chose d'assez, ouais, non seulement plaisant, mais aussi qui pose quelques bonnes questions.
Et pour en revenir à quelque chose de plus prosaïque et au code de Bond, qu'est-ce qu'on pense de la James Bond Girl, la fameuse française qui s'appelle comment déjà, Bérénice
Marlowe.
Moi, je l'ai trouvée très vulgaire, en fait.
Oui, je la trouvais pas terrible. À l'inverse, par contre, de sa nouvelle associée,
la petite métisse
qui, ouais, je trouve, assure vraiment bien, tant dans les films d'action que dans les dialogues et les séquences un peu plus intimes.
Il y a moins de femmes que d'habitude quand même dans ce James Bond, mais il arrive quand même encore à nous servir la scène de la douche, quoi.
Ouais.
À chaque fois.
Oui, bah, évidemment, mais je crois que s'il ne fait pas ça, les fans de base de Bond vont crier au scandale. Donc ça fait partie un petit peu du jeu d'intégrer quelques scènes un peu comme quelques cascades et pics en moto, en jet ski ou en voiture. Donc il est obligé de pimenter la sauce avec ces ingrédients-là, sinon on ne serait plus dans du Bond. C'est ce qui fait qu'on reste attaché à la franchise, mais avec quelque chose en plus ici, cette fois-ci, contrairement à Casino Royale ou à Quantum of Solace, où là vraiment c'était de la répétition et de l'auto-parodie qui aboutissait à une impasse, quoi, selon moi.
On va donner une petite... Ah non, Julien veut encore
parler.
Non,
mais oui, parce que je trouve que tout ce qu'on voit peut-être derrière ce Bond est quand même assez factice, quoi. Oui, l'idée du vieillissement, tout ça, et puis bam, il retombe sur un Écossais qui lui dit « Tiens bien ton arme », et tout à coup, il retire droit, quoi. Donc, grosso modo, Bond ne sait plus tirer, il tire toujours à côté, là, il a un petit problème. Il retourne sur ses terres, et puis un vieil Écossais lui dit « Tiens fermement ton arme », et voilà, il redevient la grande star du... Le Lucky
Luke.
C'est
parce que c'est dans son ADN, hein, c'est, il fallait réveiller son ADN, c'était juste celle-là, mais il avait un peu oublié, donc on lui a montré le chemin. Maintenant, il a retrouvé l'arme.
Bon, alors, Julien, une cote sur 10, combien ?
6.
6 sur 10. Isaline ?
5 sur 10.
Mais enfin !
Mais 8 pour un peu faire monter le.
Mais moi aussi, 8. C'est quand même du très bon spectacle, enfin. Vous irez le revoir. C'était Skyfall, le dernier James Bond, un film de Sam Mendes. Voici le générique de Boss, Satan, Your Kingdom Must Come Down, de Robert Plant. La seconde saison de Boss s'est clôturée il y a quelques semaines aux États-Unis sur la chaîne Starz. 10 épisodes ont été diffusés. C'est 2 de plus que l'année dernière, mais c'est toujours beaucoup trop peu parce que Boss, c'est, je crois, vraiment ce qui se fait de mieux en matière de télé actuellement. C'est l'histoire de Tom Kane, le maire de Chicago, atteint d'une grave maladie dégénérative et incurable qui lui fait progressivement perdre la boule et son self-control. Tom Kane qui s'accroche au pouvoir, qui essaie de planquer l'info sous le tapis, évidemment. C'est un homme autoritaire, voire tyrannique, un type vraiment pas net, qui a trempé dans pas mal d'affaires louches, prêt à tout, même à sacrifier au sens propre comme au figuré sa propre famille. C'est un sombre connard et pourtant on s'y attache. On le doit à l'acteur Kelsey Grammer qui joue son rôle et qui est absolument incroyable, et d'autant plus quand on sait qu'il s'est fait connaître dans des rôles comiques. Dans la seconde saison de Boss, on assiste toujours à la campagne pour le poste de gouverneur de l'Illinois, auquel prétend encore le trésorier de Kane, le très joli garçon, mais pas très sympathique non plus, Ben Zajac, et toujours la presse qui enquête sur Kane. Avec Boss, moi je trouve qu'on est pas loin du chef-d'œuvre. C'est sans doute la meilleure série de ces dernières années. Non, sans conteste. Ou peut-être avec conteste. Je ne sais pas. Qui l'a vu ? Le chef l'a vu.
En tout cas, la première saison, oui. Je trouve que c'est en effet une excellente série qui me rappelle un petit peu The Wire dans ses ambitions d'autopsie à la fois d'une ville. Ici c'est le monde politique, là où on avait le monde de la criminalité, le monde policier et judiciaire, mais c'est avec cette même ambition d'aller au fond des choses, d'aller fouiller du côté obscur de la force à travers ce personnage qui est prisonnier du pouvoir, qui veut on sent quelque part qu'il a envie de chercher une espèce de rédemption, mais qu'il est complètement absorbé par la fonction.
Ah oui, tu as senti ça, toi?
Oui, très fort. Je trouve que cette volonté de renouer avec sa fille d'un côté, mais en même temps, il est de plus en plus sadique, et de plus en plus autoritaire, et de plus en plus enfermé dans sa logique. Ça, bon, apparemment, il s'est librement inspiré du roi Lear de Shakespeare, mm-hmm. ce dictateur qui est de plus en plus isolé. Et on retrouve très bien, et je crois que voilà, il y a l'épaisseur qui font les ingrédients indispensables d'une série réussie, parce qu'esthétiquement, Gus Van Sant, qui a réalisé le pilote, a posé les marqueurs esthétiques de la série qui font que voilà, on pénètre aussi dedans, il y a une ambiance particulière, la caméra essaye de capter un petit peu les émotions des personnages, et puis le scénario lui-même est solide et bien fiévreux et fielleux à souhait. Donc on suit ça avec beaucoup de plaisir, même si je suis peut-être un peu plus tempéré par rapport à certaines incursions de scènes de cul qui
oui,
sont un
ça
peu
c'est vrai.
Voilà, dispensables.
En particulier dans la seconde saison, il y a quand même quelques scènes bien putassières qui...
Voilà, et je trouve que ça, on sent un petit peu cette volonté peut-être de remettre une petite couche, un petit peu d'adrénaline, de libido dans le jeu, mais c'est un peu un artifice, mais propre aux séries, on va dire, qui sont sur une certaine longueur. Cela dit, voilà, les contradictions d'un homme sont étudiées avec finesse et beaucoup de réalisme. Et les Américains sont jamais aussi bons que quand ils se dressent, ils se regardent dans un miroir et ils regardent le côté le plus sombre d'eux-mêmes, quoi. Ici, il y a une espèce de plaisir à se faire du mal, mm-hmm. qui est assez jouissif.
Laurent Aubrex.
Mais justement, sur le côté miroir, là, c'est vrai que c'est un truc qu'on ressort souvent sur les séries américaines, qu'elles sont un peu le reflet de la société, mm-hmm. de ses turpitudes.
Mais toi, tu ne penses pas.
Et je trouve que c'est un peu un prétexte ici. Parce qu'on... Donc c'est quoi ? C'est une série qui est censée montrer un peu les dessous du décor de la politique à Chicago, grande ville. Il y a un effet qui s'inspire du maire Richard Daley, je pense, qui a été maire de la ville pendant 20 ans, qui est mort en 76. Voilà, je me suis quand même
documenté. Ah ouais.
Et... qui à la fin a été aussi un peu trempé dans des histoires un peu louches, qui n'a jamais été atteint, mais plusieurs de ses proches ont été mouillés dans toutes sortes d'histoires. Donc voilà, il y a cette volonté un peu à la base, en tout cas, de reflet comme ça d'une société américaine un peu pourrie. Et ça part bien, je trouve que la série part bien là-dedans. Et puis j'ai l'impression que petit à petit, elle s'empêtre comme ça dans son propre cynisme. Dans le propre cynisme de la politique,
cynique,
c'est très amoral, tout le monde y passe, il n'y a plus aucun personnage qui a... Même le journaliste qui est censé à un moment...
quand même, ça reste quand même un peu la voix.
Ou le Chevalier Blanc, comme ça, mais qui à un moment lui aussi passe de un peu de l'autre côté ou fait des concessions. Et ce qui aurait été, ce que je trouvais intéressant, c'était justement de montrer qu'en effet, la politique, comme l'a dit d'ailleurs Obama dans son discours de réélection, que la politique c'est violent, que la politique c'est des coups de pute en gros, c'est un truc très hargneux, mais parce que derrière, on l'oublie, c'est qu'il y a des vrais combats, des vraies idées, ou en tout cas des gens qui se... qui mouille vraiment la chemise.
Et donc, c'est vrai que dans ce cas-ci, on sent pas exactement.
Mais je trouve qu'au début, justement, on voit bien le maire, par exemple, il fait des saloperies, mais on comprend que derrière, il y a malgré tout une volonté, ou en tout cas, l'idée du bien commun. Voilà, l'idée. Mais après, tout doucement, on voit bien qu'il est pris dans son propre piège. Alors, il y a une espèce de climax, comme ça, dans la fin de la première saison, qui fait que. Ça s'emballe et je trouve qu'on perd de plus en plus de réalisme dans le truc. Alors ouais, les scènes de cul, c'est tellement cliché. Le pouvoir, c'est forcément du sexe un peu cru, un peu violent, dans les couloirs, comme ça, en slide. Donc voilà, je trouvais qu'à un moment, on perdait un peu le fil. Et c'est marrant parce que je lisais un papier du New York Times, justement, sur la série. Mm-hmm. Et qui faisait allusion, qui comparait avec la série européenne Borgen, qui est aussi une série politique.
Qui est extraordinaire, d'ailleurs, on en parlera en fin d'émission.
Voilà, et qui part d'un postulat encore beaucoup plus chiant, quand même, qu'une ville comme Chicago, et qui pourtant arrive à trouver le bon équilibre.
Mais c'est pas du tout la même chose. Je pense que Boss ne s'embarrasse pas de réalisme. Boss est une tragédie.
Ouais, mais c'est souvent comme ça qu'on essaie de faire passer les séries américaines. Comme quoi, elles sont fabuleuses parce qu'elles montrent un peu les tourments de l'Amérique, ce qu'il y a derrière le rideau.
Non, je crois que c'est une histoire d'homme, en fait, je pense, ici, pour le coup.
C'est vrai que les quelques femmes qu'on voit ne s'en sortent pas vraiment forcément grandies non plus.
Dans la saison 2, il y en a une qui débarque, qui prétend aussi au poste de gouverneur de l'Illinois, qui est assez extraordinaire. Ça se termine pas nécessairement très très bien pour elle, mais je vous invite à poursuivre.
Mais cela dit, je vais le faire, parce que moi j'ai vraiment accroché à la première saison, et le personnage du maire est incroyable. Comment il s'appelle,
Kelsey
Grammer, qui a l'air d'être une vraie crapule dans la vie, est un vrai connard à l'écran. Il se passe super bien, il a une voix incroyable, il dégage un truc assez sensationnel. Donc je vais continuer.
Et sinon, je sais que tu maîtrises très très bien Google et Wikipédia, ce qui est un vrai talent.
J'en ai encore donné la preuve.
Tu as trouvé un lien de filiation entre la fille de Tolkien et une star actuelle. Mais de quoi s'agit-il?
Complètement. Jessie Ware, qui sera en concert à l'Abbé le 26 novembre.
Complet d'ailleurs.
Complet, aussi au club, donc c'était pas très compliqué. Oui. Qui est une espèce de chadé comme ça des années 2010, une anglaise blanche qui a commencé un peu sur la scène dubstep et qui maintenant fait de la soul un peu froide, glaciale, mais c'est craquante. Eh bien, c'est la petite sœur de Anna Ware qui joue la fille du maire dans la série. Voilà. J'espère que...
Waouh. Jessie Ware qui est d'ores et déjà présentée comme la nouvelle Adèle, et ça, je pense que ça te fait plaisir, Julien Brunet.
J'adore, vraiment. Bah, Adèle s'en sort quand même pas trop mal sur le générique du James Bond, j'avoue. Quoi. J'aurais préféré entendre les Arctic Monkeys, mais bon, on fait avec.
Bon, on va terminer le tour de table avec des cotes sur 10 à propos de cette série Boss et de cette seconde saison.
Bah, 7 sur 10 pour moi. Surtout en période de disette, je crois qu'il faut soutenir les séries qui prennent des risques et qui vont de l'avant.
Ah, c'est sévère, ça, 7 sur 10. L'autre, Laurent.
Moi, je vais mettre 6. Mais je vais regarder la deuxième. La deuxième.
Ben, moi, je pouvais mettre 10, mais finalement, j'ai mis 9. Parce que, bon, comme on le disait tout à l'heure, certains épisodes sont un petit peu faciles, un petit peu butaciers, notamment au niveau du cul. Mais je pense que ce n'est qu'un détail. Boss, dont la seconde saison vient donc de se terminer aux États-Unis. Enfin, on termine par le bouquin. Il n'a pas eu le Goncourt comme on l'attendait pourtant, mais il a eu le Femina, Peste et choléra de Patrick Deville, unanimement encensé par la critique. C'est le récit romancé de la vie d'un type que l'histoire a un petit peu oublié, mais pas Patrick Deville. Alexandre Yersin, né en 1843 et mort en 1943. Un scientifique suisse, disciple de Pasteur, découvreur du bacille de la peste, mais aussi explorateur à ses heures. Alors, je dois vous le dire, pour être tout à fait honnête, que je ne l'ai pas lu en entier, je l'ai arrêté après 80 pages, parce que la vie est trop courte en fait. et que parfois, bah, il faut faire des choix. J'ai trouvé ce livre abominablement chiant. Tout le contraire de la vérité sur l'affaire Harry Kéber qu'on avait un peu descendu lors de la première édition de l'émission. Alors autant celui-ci était mal écrit mais très addictif, autant le devis est joliment troussé mais soporifique à crever. D'autant que l'auteur se plaît, voire se complaît à semer chacune de ses pages de termes désuets, inusités ou tout simplement inconnus. Rien que sur le tout premier paragraphe, j'ai dû aller googler et wikipédier 3 fois. Bref, j'ai détesté, vraiment, mais je pense que c'est pas exactement votre cas. Par exemple, Isaline, qui est chef des pages bouquins de Focus, qu'en as-tu pensé ?
Moi, j'ai absolument pas été sur Wikipédia ou sur Google parce que ça m'amusait assez bien. En fait, moi, dès les premières lignes, j'ai été complètement happée. Dès les premières phrases, je trouve qu'on a, voilà, on a une densité, on a un mystère.
C'est mystérieux. Hein.
On a un écrivain. Il faut sans doute, c'est vrai, se battre un peu contre la langue de Deville au départ pour y rentrer, mais je trouve vraiment qu'on a un écrivain qui nous fait rentrer dans des mondes, en fait. Et Deville l'explique très bien sur le côté lexique, parce qu'il dit, voilà, Yersin a inventé, a découvert une réalité à ce point insoupçonnée dans toutes les langues du monde, qu'il a fallu inventer des pages entières de dictionnaires pour en parler. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans tous ces noms, sissiparité, microbie, cristallographie, animalcule, géodésie, une vraie dimension poétique.
La drogue t'a détruite, en fait.
Et je trouve, alors c'est très curieux en fait, si on ouvre un peu les pages du livre, on peut remarquer qu'il y a très peu de phrases sans nom avec des majuscules. En fait, il adore de viluser, abuser des noms propres, comme une sorte de litanie exotique. Alors je vous passe évidemment tous les noms indo-chinois, mais il s'appuie très, très fort là-dessus. Et je peux pas vous dire, moi je trouve que c'est une écriture concise, très voyageuse, ciselée, qui enferme des mondes dans ses lignes. Je trouve que c'est une écriture qui met en branle les fantasmes, les images, c'est une écriture qui, voilà, qui allume des feux, qui tend les moustiquaires, qui tient le cap au contact, qui ouvre des routes, qui creuse des chemins vers des jungles furieuses. C'est assez fort en fait, et je trouve que ce personnage de Yersin est quand même un personnage absolument génial, un personnage que l'histoire a complètement oublié. Un chercheur doué qui découvre quand même le bacille de la peste.
Mais un personnage génial, ce personnage n'a aucune épaisseur.
Mais bien sûr que si.
Enfin, en tout cas, après 80 pages...
C'est lui qui a cherché à ne pas en avoir, et c'est ça qui est complètement fascinant, c'est qu'il décide à un moment donné que dès qu'il réussit dans quelque chose, ça ne l'excite plus. Alors, il devient marin sur la mer jaune entre Saigon et Mani, puis il devient explorateur, cartographe. En fait, il établit d'improbables passages de relais entre, je sais pas, l'herboristerie, la découverte de peuplades sauvages. C'est quand même quelqu'un qui isole le bacille de la peste, je l'ai dit, mais qui rêve de faire pousser des fleurs rares. C'est quelqu'un qui reçoit des médailles de comités agricoles régionaux au moment où ses collaborateurs reçoivent le Nobel. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui préinvente le Coca-Cola, hein, le Coca-Cannelle, et qui néglige tout simplement de déposer le brevet. C'est quand même absolument génial. C'est quelqu'un qui tourne le dos, en fait, au confort, à la reconnaissance. Je trouve, à cette espèce de folie douce, en fait. Une sorte de génie et de folie à la fois qui est très scientifique, en fait. La science est toujours un peu sur la ligne entre ça. Et tout le récit baigne comme ça dans cette folie douce, un peu hypnotique, d'une curiosité qui ne se pose jamais. Et ça, c'est très soutenu aussi par la construction de Patrick Deville, qui est assez brillante, très mouvante, en fait, des allers-retours, des répétitions sur certains points de la vie de Yersin, avec aussi quand même quelques anachronismes géniaux, où Deville se met lui-même en scène comme un fantôme du futur, par exemple, qui a très envie de se griller une cigarette, à un moment où, évidemment, on ne fume pas encore, ou qui répond à son GSM et qui est du coup pris pour un espion, un dangereux espion soviétique à l'époque. Et puis, je trouve, les passages sur la vieillesse de Yersin sont absolument magnifiques. Cet homme avec sa barbe blanche, son œil bleu qui ne va plus nulle part, qui attend la mort dans cette beauté, dans cette maison carrée qui s'est fait construire devant l'océan. Et puis une conclusion de Deville qui est quand même aussi assez intéressante, puisqu'il dit « Je suis sûre que Yersin n'aurait pas aimé, ce livre ne lui aurait pas plu parce que, tout simplement, c'est quelqu'un qui détestait être sur le devant de la scène. » Donc c'est quand même une belle ironie.
Je préfère 100 000 fois le bouquin tel que tu me l'as expliqué que ce que j'en ai lu. Laurent Houbrex, t'as bien aimé aussi.
Moi, je suis vraiment rentré dedans parce que c'était aussi bien un dépaysement, parce qu'en effet, la plupart du temps de sa vie, Yersin l'a passé en Asie, de la tringue dans au Vietnam.
Ce qui te rappelle tes propres explorations asiatiques.
Eh, complètement. Non, mais c'est vrai, en plus. Donc, il y a ce côté voyage. Et puis, c'est un voyage, en effet, au niveau de la langue, qui est une langue pas forcément qui reste malgré tout dynamique, même si elle peut être précieuse. Enfin, précieuse, c'est pas vraiment le mot, mais il y a en effet toute une... Deville prend beaucoup de plaisir apparemment à sortir des termes. Enfin, on pourra lire un extrait ou l'autre si
oui,
on veut.
Oui,
mais...
oui. Alors, moi, je vous lis un extrait.
Vas-y,
moi d'abord.
Vas-y.
Alors. Depuis le départ de l'extra-lucide, la petite bande des pharmaciens s'étiole. Elle fréquente encore par habitude ces labos, qui sont des bistrots, s'élaborent au fond des cornues d'autres élixirs. L'effet multicolore qui s'installe au fond du cerveau des pharmaciens. À présent, Decati abreuve le vert tapis de l'alexandrin, qui sans cesse se réplique en diptyque, mais de plus en plus animé. Voilà.
Certes. Mm-hmm. Non, mais parfois... Bon, je lis
oui.
la phrase que j'ai pointée,
oui,
qui est absolument anodine. Donc c'est une scène, il est au bord de l'eau, je sais pas trop quoi, il va monter dans une barque ou un truc comme ça. Donc il explique, on active les bossoirs, met à l'eau les périssoirs, pose les dames de nage, et il livre quelques caisses dans un village de pêcheurs. Voilà, il y a au moins 4 mots que je ne connais pas dans cette phrase, 3-4 mots. Mais ça sonne,
oui,
moi
ça me fait,
voilà. Et ça m'empêche pas d'aller plus loin dans le récit, d'un personnage qui est en effet mais complètement chiant. C'est, alors... Il a eu 36 vies, en effet, il a découvert le bacille de la peste, il a été explorateur, cartographe, marin, je sais pas, mais en tout cas, il a beaucoup voyagé en bateau, donc il a ce côté-là.
Ouais.
Mais en même temps, il y a, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il est en Asie, et alors que c'est une vraie boucherie en Europe, lui, il cultive des fleurs. Et donc il y a une correspondance comme ça qui continue avec ses relais parisiens où il parle de ses fleurs alors que à ce moment-là c'est complètement l'enfer là. Donc il y a une espèce de décalage complet qui fait que c'est un personnage en effet particulier, extrêmement sérieux. Et oui, moi je trouve qu'il avait un côté très 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 ennuyeux. Et pourtant, voilà, grâce à l'écriture
c'est
de Deville...
Cette volonté d'expérimenter l'ennui jusqu'au bout comme ça. Non, mais je trouve ça vraiment bien, quoi. Enfin, vous tenez bien votre rôle de journaliste, en tout cas.
Ouais, en même temps, je l'ai lu jusqu'au bout et sans vraiment m'ennuyer.
D'accord. Laurent Raphaël.
Mais qu'ajouter après cette scène.
C'était bien dit, hein.
C'était bien dit. Et, je rejoins, je suis plutôt du côté de ceux qui ont apprécié... Le roman, tu dois être isolée, Myriam, il y a quelque chose qui a dû t'échapper.
Non, mais c'est pas grave, c'est parce que vous fréquentez trop, c'est pour ça.
Voilà. Je trouve que c'est avant tout un écrivain, donc il aurait pu, je crois, s'emparer un petit peu de n'importe quel sujet. Il a une écriture assez chamanique comme ça, il déconstruit les phrases, les structures de phrases, et donc il arrive à créer une petite musique à l'intérieur de la langue. Et je trouve que rien que cette capacité-là est assez jouissive. Surtout qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de lire des choses un peu insipides, et complètement fades et édulcorées. Et donc lui, ici, il prend un rebrousse-poil un petit peu cette tendance et il ose une écriture qui peut paraître désuète, mais en fait, qui ne l'est pas du tout. Parce que c'est la beau truffer son texte de mots qui sont en effet un petit peu passés de mode ou tombés dans l'oubli. Mais en même temps, il a une audace très forte dans la manière de déstructurer la langue et de construire son récit. Donc c'est beaucoup plus novateur que ça n'en a l'air à première vue. Et puis alors sur le sujet, je trouve que c'est quand même un pied de nez un petit peu au monde actuel, à la fois de faire revivre ce monde englouti ou de cette époque des pionniers où tout était possible, rien que pour la beauté du geste, de nous rappeler un petit peu il y a un peu plus d'un siècle et demi comment on vivait à l'époque où ce qui est devenu complètement irréaliste et impensable, un homme pouvait dans la même vie être à la fois un grand médecin, un grand physicien, un botaniste, tout ce qu'on veut, explorateur qui découvrait de nouveaux territoires. Enfin, je veux dire, c'est quand même formidable de se dire ça n'a pas plus de 100 ans, puisqu'il faut quand même le rappeler que le personnage a existé vraiment dans la vraie vie. Ici, on est presque dans le docu-fiction, hein, parce que quand on regarde un petit peu la biographie du vrai Alexandre Yersine, ben c'est très très proche, hein, les épisodes. Il n'a quasiment rien inventé, à part le fantôme. Qui vient
c'est basé sur
des
correspondances qu'il avait essentiellement avec sa mère.
Voilà. Mais donc de ce qu'on sait du vrai personnage, on est très très proche, quoi. Donc c'est de la fiction, mais en même temps, c'est très réaliste. Et voilà, je trouve que c'est une tranche de vie comme ça assez succulente, parce que on dit que le personnage, vous dites ici autour de la table, on entend que le personnage est un peu ennuyeux, mais comment est-ce qu'on peut s'ennuyer à avoir vécu, traversé des paysages pareils, hostiles, se recevoir une lance dans le ventre, enfin je veux dire. Parce que
lui-même se lassait de tout, c'est quand même ça qui est étonnant.
Oui, il prend le contre-pied un petit peu de déjà cette tendance à l'époque de vouloir se faire mousser. Il n'a jamais eu le Nobel, contrairement aux autres, sans doute parce qu'il n'a pas voulu jouer la carte, la bonne carte du parti qui lui aurait permis de grimper les échelons. Il a toujours refusé ça. Donc c'est vraiment un être, un rebelle profond, quoi. Mais au sens premier, qui a fait de grandes choses pour l'humanité, mais qui est resté intègre jusqu'au bout. Voilà, c'est une figure, je trouve, assez mémorable, qui réveille ici et qui remet un peu à notre esprit.
Rapidement, une cote pour ce bouquin, Laurent ?
Pour moi, 7 sur 10.
L'autre, Laurent ?
Pareil.
Isaline ?
8.
Et Julien de la Palue ? Moi, je mettrais 3. Voilà, pour la jolie plume, le bel esprit. Mais c'est bien tout. Isaline, tant que c'est jeté sous la main, les prix littéraires sont à peu près tous tombés là. Qu'est-ce que le Goncourt, tu l'as lu ? Qu'est-ce qu'on peut en penser ?
Ben non, c'est le seul des quatre que j'avais pas lu. Donc
ah.
Mais je vais m'y coller du coup. Mm-hmm. Bon, Jérôme Ferrari, c'est pas quelqu'un qui m'attire spécialement, mais voilà.
D'accord.
Je pense que ça a quand même été un peu dur d'arriver à un consensus au sein du comité. Vraiment, il y avait beaucoup de très déçus hier. Voilà.
Et la vérité sur l'affaire Harry Kéber, que nous avions à peu près tous détesté ici autour de la table, a quand même chopé un
prix. Le Grand Prix de l'Académie française, alors voilà. Ça c'est quand même terrible. Oui. Pour un jury qui prétend récompenser la langue,
l'excellence,
le style,
oui.
Enfin, c'est quand même assez édifiant.
Et continue à faire un chemin incroyable dans les ventes et être encensé partout en France, on ne comprend pas trop.
Il y a quand même un des jurés du prix Goncourt hier qui a fait une réplique géniale, parce qu'on lui demandait alors, et l'histoire de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et Patrick Rambeau a dit... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce roman de plage ?
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Bref, on ne comprend pas et le mystère reste entier. Et avant de fermer la supérette, un petit tour des coups de cœur de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors pour ma part, c'est une série, on en parlait tout à l'heure, Borgen, série politique danoise. Sa deuxième saison va bientôt commencer sur Arte. C'est moins cruel, moins tragique que Boss, mais c'est extrêmement fin, extrêmement réaliste. On voit une femme devenir premier ministre du Danemark, apprendre le métier en fait sur le tas. Comment on forme un gouvernement, comment on met au point un budget, comment on prend des décisions, comment on fait des compromis avec son éthique personnelle. C'est voilà quelques-unes des questions qu'on explore avec Borgen, tout à fait passionnante comme série. À conseiller évidemment une deuxième saison dans quelques jours qui va commencer sur Arte. Alors Julien, un coup de cœur culturel de la semaine.
Moi, le coup de cœur, c'est Ty Segall, que je vous recommande chaudement. Ty Segall, il veut remettre la guitare au centre du rock'n'roll aujourd'hui. Et donc, Ty Segall, c'est un croisement entre Kurt Cobain et Jerry Tartt. C'est garage, c'est noise, c'est... Ça déglingue en fait. Ty Segall, il vient en concert le 27 novembre à Courtrai et il viendra le 30 dans le cadre d'Autumn Falls à l'atelier 210. Et bah, je vous conseille d'être là.
Isaline.
Écoutez, un roman évidemment, Comme une bête de Joyce Ormond, qui était d'ailleurs en lice pour le Goncourt, qui revient un peu sur le parcours et la révélation d'un apprenti boucher. Alors ce que j'aime beaucoup avec Joyce Ormond, c'est qu'elle va chercher la littérature là où elle n'est pas a priori, elle va la déloger au cœur comme ça de monde clos, technique, limite très procédurier. Et il se fait qu'elle tranche dans la langue comme son boucher écorce et déjointe les vertèbres. Elle va absolument partout, dans le blizzard des frigos, dans les allées tentaculaires de Rungis. C'est une démarche curieuse, inventive, branchée sur le monde, avec en plus une vraie réflexion anthropologique. On aime les animaux et on les mange, il n'y a pas de contradiction, parce qu'on les mange parce qu'on les aime. Voilà. C'est chez Gallimard et ça s'appelle Comme une bête, Joyce Ormond.
Le rédac chef.
Moi, je vous conseille une BD, en fait, qui est une BD un peu expérimentale. Ça s'appelle Les carnets d'un New-Yorkais de Peter Cooper, chez Ça et Là. C'est un New-Yorkais qui vit depuis 35 ans dans la ville. C'est un livre hybride assez foutraque où il mélange images, photos, illustrations, peu de texte, mais beaucoup d'ambiance, d'énergie. Donc une parfaite représentation de New York, c'est assez jouissif.
Hors antenne, tu me parlais d'une sortie DVD, d'un vieux film RKO.
Oui, la RKO, What Price Hollywood de George Cukor, donc, qui vient compléter la collection RKO qui est donc cette major, la plus petite des majors comme on l'appelait. On ressort un petit peu les meilleurs titres de la collection, et aujourd'hui il y a 5 nouveaux titres qui se sont ajoutés. Et c'est, je le conseille aussi chaudement, puisque c'est un film des années 30 qui revient un petit peu sur toute la problématique de la starification, l'histoire d'une serveuse qui veut gagner sa place sous les projecteurs de Hollywood, et qui va y parvenir, mais au prix de sacrifices et de déconvenues. Le thème de la célébrité, de comment gérer sa célébrité, le thème de la drogue dans ce milieu-là, tout ça est déjà abordé avec un réalisme puissant, et on est dans les années 30, c'est assez bluffant.
Et le chef des bases de musique, Laurent Brecht ?
L'autre jour, j'étais invité par un pote pour aller voir le concert de Lucas Santana, c'est un Brésilien, il jouait au club de l'ancienne Belgique. Mm-hmm. J'y allais sans absolument rien connaître de cet artiste, et c'était vraiment très très bien, j'ai un peu creusé. C'est un Brésilien qui fait une espèce d'électropop pour faire un peu large, mais qui est complètement brésilienne dans l'espèce de ligne mélodique, dans les structures, mais qui sonne pas du tout brésilienne, ou en tout cas pas qui ne saute pas à l'oreille. Donc c'est vraiment intéressant. Il amène autre chose. Il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin 150 personnes, quelque chose comme ça. Mais je pense que, par exemple, on pourrait le revoir à Couleur Café ou un truc comme ça.
Et tu me rappelles son nom ?
Lucas Santana, et son dernier album est complètement téléchargeable sur son site gratuitement.
Waouh !
Donc n'hésitez pas, il y a vraiment, vraiment les deux tiers qui sont vraiment très bien.
Eh bien, merci à tous. On se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, c'est fini. Écoutez-nous en podcast sur iTunes et Podomatic. Donnez-nous vos avis et commentaires. On est toujours preneurs. Et lisez-nous aussi. C'est important de lire, ça se perd. Retrouvez-nous sur Internet sur le www.focusjuif.be et sur papier, en librairie chaque semaine avec le Vif l'Express. Merci tout le monde. Ciao.